tout bon, ça affiche parfaitement là. On est tout prêt, c'est bon, ça affiche, on a exactement ce que vous voyez sur l'écran.
Alors là, je ne sais pas si ça va fonctionner comme il faut ça.
Moi, je vous laisse à côté. Si au cas où là, vous n'êtes pas à l'aise avec celui-là, vous
d'accord,
pouvez, ça sera plus simple. Là, il ne va pas marcher. Je vais le lancer, je pense.
Est-ce que ça marche, hein? Alors maintenant, je trouve que où je me mets par rapport au micro. Est-ce que là vous m'entendez? Oui. Et maintenant c'est bon? Eh bien écoutez, je vais commencer. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation à être parmi vous. Je suis vraiment très honoré d'être là devant vous pour réfléchir avec vous sur ces questions d'alimentation. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Alors, je suis très honoré et je suis très vraiment ravi d'être là parmi vous parce que ne serait-ce que la phase de méditation qu'on vient de passer a soulevé un nombre de points à l'égard desquels je pense que ce que je vais raconter va pouvoir faire écho. Et donc j'espère pouvoir contribuer aux réflexions et aux échanges sur cette thématique de l'alimentation. Alors on a vu avec les jeunes collègues ici tout à l'heure, l'alimentation c'est évidemment un sujet majeur qui de certaine manière est très banal puisqu'au fond on mange tous les jours, des fois on n'y prête pas attention. Mais l'alimentation c'est un sujet majeur et qui en fait embarque plein de dimensions. C'est des dimensions de plaisir. Au fond, le premier élément, c'est qu'on aime bien manger en général. Donc il y a le plaisir à manger, il y a des dimensions de partage, de convivialité qui sont importantes. Mais il y a aussi, au-delà de toutes ces dimensions de convivialité et de partage, des enjeux majeurs. Je viens de rappeler à l'instant des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, de santé. Et au fond, c'est ces éléments-là que je voudrais, dans cette introduction, essayer de cadrer un petit peu, en appuyant à la fois sur des travaux d'INRAE, mais des plus largement sur des travaux conduits par toute une série d'organisations diverses à différentes échelles. Et ce que les organisateurs m'ont demandé de faire, c'est de rentrer par un point de vue global. Donc je vais rentrer par un sujet qui est global, et puis on ira, et puis vous irez aussi vers des approches plus globales, plus locales, pardon, plus spécifiques, au fur et à mesure des échanges qu'on va avoir. Et cette entrée sur le point de vue global, je vais le faire sous l'angle d'une question qui est celle de la sécurité alimentaire mondiale. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, à travers les points qui ont commencé à être évoqués dans la phase de méditation, quelles sont les questions qui se posent, quels sont les enjeux auxquels on est confronté, et au fond, à l'horizon des décennies à venir, comment on peut faire face à ce sujet qui va être un sujet majeur. Pour la transition, on a parlé de transition tout à l'heure, on reviendra sur ce terme-là aussi au cours de mon exposé, majeur pour la transition climatique, environnementale, énergétique. Alors, quand on parle de sécurité alimentaire, de quoi on parle? Là, j'ai repris la définition de la FAO. Donc la FAO, c'est la division de l'ONU, de l'ONU, qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture. Et bon, qu'est-ce que c'est que la sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine, nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Donc ça, de cette manière, c'est l'objectif. qui doit se porter, concerner tout le monde, tous les êtres humains, avec des dimensions multiples, sur lesquelles je vais revenir dans une seconde. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces objectifs ? Malgré les progrès qu'on pourrait mentionner sur certains aspects au cours des dernières décennies, l'objectif n'est clairement pas atteint. Et je prendrai juste un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On a presque encore 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim sur la planète. Donc c'est clair que cet objectif-là, on n'y est pas encore. Et le souci qu'on a, c'est non seulement qu'on n'y est pas encore, mais d'une certaine manière, quelles peuvent être les perspectives autour de cette thématique-là pour les décennies à venir, et en particulier, si on se situe par rapport aux grandes échéances à venir, par rapport à 2050, si on prend ça comme point de repère dans la discussion, par rapport à cette échéance-là, où est-ce qu'on se situe ? Quels sont les enjeux ? Et au fond, quelles seraient les pistes, les voies d'action pour essayer d'y arriver ? Alors cette question de la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, on pourrait la poser à différents niveaux, pose des questions multiples. Des questions de disponibilité. Il faut au fond que l'alimentation soit disponible en quantité, mais aussi en qualité. Et j'insisterai beaucoup sur les questions de qualité tout au long de mon exposé. Ce n'est pas seulement des questions de quantité, c'est aussi des questions de qualité. Et donc suffisantes pour répondre aux besoins des populations d'aujourd'hui et de demain. C'est des questions d'accessibilité. Accessibilité, ça veut dire que le produit doit exister, mais il doit être finalement dans un magasin qui n'est pas trop loin de chez vous, et surtout dans des conditions économiques, à des prix, permettant à tous d'accéder à des aliments sains, à des régimes alimentaires équilibrés et durables, et cela de façon stable, puisque vous savez probablement qu'au fond, une des difficultés qu'on a eues et qui risquerait de s'amplifier dans les années à venir, c'est les chocs, c'est les crises. On vient de traverser une crise, plusieurs crises d'ailleurs, Covid, inflation, donc c'est des crises qui se reproduisent comme ça périodiquement, et au fond la question c'est comment aussi ces crises-là, on va pouvoir les traiter et faire face dans les années à venir. C'est des questions de santé, Julien l'a rappelé, et des questions de santé qui renvoient aussi, en particulier à la malnutrition. La malnutrition renvoyant soit à la sous-nutrition, on n'a pas assez à manger, soit à la surnutrition, on mange trop. Et donc on est sur des problèmes de malnutrition, que j'essaierai de décrire tout à l'heure un petit peu plus, mais qui sont des enjeux importants pour les années à venir. Et puis les questions environnementales, évidemment la question du changement climatique, la question de la dégradation des ressources naturelles, la question de la perte de biodiversité, donc tous ces éléments-là qui rendent nécessaire une évolution pour adresser ces questions de transition climatique, environnementale, énergétique. Ces questions-là sont complexes parce qu'elles mobilisent, elles dépendent de déterminants multiples, majeurs, multiples. Et peut-être juste pour illustrer ça, un petit schéma, pour dire que la question que je vais essayer de poser, que je vais essayer de discuter là, dans mon intervention, c'est au fond à l'horizon de 2050, qu'est-ce qu'il peut en être de la mise en regard d'un côté de la demande alimentaire, demande alimentaire, c'est la demande d'aliments répondant aux besoins des populations, compte tenu de leurs préférences, compte tenu de leur budget disponible, d'un côté, et de l'autre côté, l'offre alimentaire, qui au fond, les produits disponibles, les quantités, leur prix, leur qualité, les types de production. Et au fond, c'est cette adéquation entre d'un côté une demande alimentaire et d'autre part une offre alimentaire que je vais essayer de discuter avec vous dans mon exposé. Ces éléments-là dépendent de multiples facteurs, je viens de le dire. La demande alimentaire, si on la regarde au niveau mondial, mais c'est vrai à différentes échelles, elle va dépendre de la démographie, donc de l'évolution de la taille des populations, du taux de natalité, donc toute une série d'éléments qui vont jouer sur la taille des populations. Elle va dépendre des revenus et donc des dynamiques économiques des pays. Quand je mets revenus, c'est non seulement au niveau des individus, mais c'est les revenus à l'échelle des nations, des pays. Donc c'est par exemple le produit intérieur brut, donc le développement économique des pays qui va jouer sur la demande alimentaire. Dépend des niveaux d'éducation qui jouent aussi sur la demande alimentaire. Dépend de phénomènes sociétaux qu'on a connus, qu'on va continuer à connaître et qui va s'amplifier dans toute une série de parties du monde, qui sont par exemple l'urbanisation. Donc tous ces éléments-là sont des éléments majeurs qui vont influer, qui influent déjà, mais qui vont influer sur l'évolution de la demande alimentaire mondiale. Du côté de l'offre, et donc de la production des aliments, de la production des aliments, il y a d'autres facteurs qui vont jouer. C'est par exemple les terres agricoles disponibles. Au fond, de combien de terres on dispose, et est-ce que les terres agricoles vont pouvoir augmenter de manière à répondre à ces besoins alimentaires. C'est aussi les manières de produire, les modes de production. Et derrière les modes de production, ce sont les rendements. Donc c'est les impacts en termes de production par hectare, si vous voulez, qui vont être très dépendants de la façon dont on produit. C'est des éléments qui renvoient au commerce, aux échanges internationaux, et donc aux flux de produits qui circulent sur la planète ou à l'intérieur de nos pays. Et puis évidemment, c'est des éléments qui vont dépendre des stratégies des entreprises. Entreprises qui peuvent être entreprises de petites entreprises jusqu'aux grands groupes internationaux, industriels, de la distribution, qui jouent beaucoup évidemment sur la nature ou les caractéristiques des produits, leur prix, etc. Autre élément qui joue, sur lequel je dirai quelques mots tout à l'heure, c'est au fond si on discute de cette adéquation entre d'un côté la demande alimentaire et l'offre alimentaire, il y a tout un point qui a été un petit peu esquissé tout à l'heure dans la discussion, dans la méditation, c'est la question du recyclage, mais c'est aussi du coup la question des pertes et gaspillages. Je dirai quelques mots sur cette question-là, parce qu'elle est aussi un élément du paysage sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Et puis tout ça, tous ces éléments-là, au fond, ils sont dans un contexte d'ensemble qui est, je l'ai dit et je le répète, parce que je vais insister beaucoup dessus, la question du changement climatique, de la dégradation des ressources, de la perte de biodiversité, la question des inégalités, qui va être un sujet, enfin, qui est déjà un sujet majeur, mais qui pour moi est un des gros sujets des décennies à venir. Les tensions géopolitiques, on voit avec l'Ukraine, comment la guerre en Ukraine a déstabilisé de cette manière les marchés alimentaires, avec les conséquences sur les prix et l'inflation. Et puis les politiques publiques, qui ont évidemment un rôle majeur à jouer, à différentes échelles, et je dirai quelques mots à la fin de mon exposé là-dessus. Donc voilà le paysage général, les éléments qui sont dans la... Dans le paysage des réflexions, des discussions qu'on va essayer d'avoir. Je ne vais pas tout balayer parce que je n'aurai pas le temps, mais je vais essayer de faire un ensemble de focus sur un ensemble de points qui me paraissent importants pour contribuer aux réflexions. Et donc ma présentation portera sur les points suivants. Je reviendrai dans un premier temps sur les problèmes de démographie, de revenus et au fond sur la demande alimentaire mondiale dans ce contexte d'évolution démographique qu'on connaît. Je parlerai d'alimentation et climat, d'alimentation et biodiversité, d'alimentation et santé. Je développerai quelques éléments sur les pertes et gaspillages et je finirai par essayer de discuter quelques grandes voies d'action pour tendre vers cette sécurité alimentaire mondiale. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de présenter dans le temps qui me reste. D'abord, premier point, démographie, revenus, demande alimentaire. Point important, la population mondiale augmente, vieillit et s'urbanise. On était 3 milliards à peu près en 1950, on est 6 milliards et demi en 2000, on est 8 milliards aujourd'hui, on sera 9 milliards et demi à l'horizon 2050. La courbe rouge, là, montre la progression de la population totale depuis le 18e siècle jusqu'à 2050. Et vous voyez qu'on a eu une phase de croissance, et la petite étoile verte que vous voyez sur la courbe rouge, c'est aujourd'hui. Donc vous voyez que la phase de croissance de la population mondiale, en fait, elle s'est opérée entre 1950 et 2000. Au fond, on a eu une très forte croissance de la population mondiale. Elle va continuer à augmenter, mais finalement dans une moindre mesure, parce qu'on devrait arriver à un pic autour des années 2070 à peu près. Et donc on a une croissance qui continue, qui va un petit peu se ralentir, mais qui va continuer. Et donc on a 1,5 milliard de personnes en plus à nourrir, on va avoir à nourrir, d'ici 2050. J'ai dit la population augmente et elle vieillit. L'âge moyen de la population mondiale était de 28 ans en 2005, sera 38 ans en 2050. Et donc on a un vieillissement généralisé. en particulier dans les pays développés, donc on sait, on est déjà arrivé sur les populations âgées dans les pays développés, mais dans les pays en développement aussi, on vu la baisse du taux de natalité, on a une augmentation de l'âge moyen. Et ça, au-delà de l'alimentation, c'est un sujet majeur que je ne vais pas développer, mais le vieillissement des populations au niveau mondial et en particulier dans les pays développés, c'est évidemment une question qui va être centrale dans les années à venir. Cette croissance de la population, alors c'est mon petit schéma là, qui est pour différentes parties du monde. En bleu, c'est la population en 2010. En rouge, c'est la population prévue en 2050. Et donc on a, pour différentes parties du monde, la comparaison 2010-2050. Est-ce que vous voyez, j'entoure là en vert, c'est que la croissance de la population mondiale, en fait elle va être surtout dans certaines zones qui sont l'Afrique subsaharienne, Afrique centrale, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, pardon, et puis une partie de l'Asie, Inde et Asie du Sud-Est. Par contre, dans certains pays et l'Union européenne, on va être plutôt à une stabilité, voire une légère décroissance de la population d'ici 2050. Le point important sur lequel je souligne là, c'est que du coup, on a des zones dans lesquelles la croissance de la population va être forte, mais précisément, c'est dans ces zones-là qu'on a les niveaux de production les plus faibles. Et donc, il y a une tension qui va apparaître et qui va se renforcer probablement, qui est qu'au fond, les lieux, les endroits, les pays du monde dans lesquels la croissance de la population mondiale va être la plus forte, c'est précisément les zones dans lesquelles les niveaux de production alimentaire et agricole sont aujourd'hui les plus faibles. Ce qui va poser des questions importantes en termes de développement de ces pays. Autre point important, c'est que la population mondiale s'urbanise. En 2050, pardon, deux tiers de la population mondiale sera urbaine. Vous avez dessous là des courbes. En rouge, c'est la croissance de la population urbaine. En bleu, c'est l'évolution de la population rurale. Et vous voyez que les deux ont monté jusqu'en 2010-2020 au niveau mondial. Mais les projections à l'horizon 2050, c'est les petits pointillés rouges qui montrent la très forte augmentation de la part de la population urbaine et la réduction avec les petits pointillés bleus de la population rurale au niveau mondial. Et ça a des conséquences majeures aussi, parce que ça veut dire des détassements de population, en particulier dans les pays qui vont se développer, puisqu'au fond, dans les pays qui vont se développer, on va avoir un transfert des populations rurales vers des villes, donc des déplacements importants de population, mais aussi du coup, le besoin de construire des chaînes d'approvisionnement. Au fond, les aliments, les produits agricoles vont continuer à se fabriquer dans les zones rurales, il va falloir apporter ça au niveau des villes, et donc ça veut dire des investissements considérables en termes de structure, de stockage, en termes de structure d'approvisionnement, etc., qui vont requérir des investissements, de chaînes de transformation, de logistique, qui sont importants, en particulier dans les pays en développement. Une demande alimentaire qui évolue, donc je l'ai dit, sous l'effet de la croissance de la population mondiale, de l'urbanisation et de la montée des revenus. Ici, c'est un schéma qui vous donne, sur l'axe horizontal, c'est le PIB par habitant, donc c'est la richesse du pays par habitant. Et en vertical, c'est les calories consommées par habitant. Et si je prenais les points rouges, par exemple, c'est la moyenne des calories consommées, chaque point rouge, c'est la moyenne des calories consommées dans les pays à haut revenu, depuis 1961, à gauche, jusqu'à 2017. Vous voyez que sur les pays développés, pays à haut revenu, on a augmenter la consommation de calories, mais cette consommation de calories, elle se ralentit au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus riche dans les pays. Mais dans les pays à faible revenu, on est sur le côté gauche de mon graphique, si vous prenez les points bleus, c'est les pays à bas revenu ou les pays à revenu intermédiaire, dans lesquels on est encore en phase de croissance de la consommation des calories par habitant. Et donc on a globalement une montée des calories consommer, qui se fait au fur et à mesure du développement économique. Et donc, quand la richesse du pays augmente, les calories consommées augmentent, puis se stabilisent quand on arrive à un certain niveau, et les types de produits consommés changent. Donc, il y a un effet clair de l'augmentation du développement économique sur ce qu'on mange. Alors, pour illustrer ça, ce petit graphique que je vais vous expliquer, qui est au fond comment la structure, notre régime alimentaire change au fur et à mesure que le pays se développe sur le plan économique. L'axe horizontal, c'est la contribution en calories de trois groupes d'aliments qui sont les lipides, les glucides et les protéines. Et l'axe vertical, c'est la richesse des pays. Donc quand plus je vais vers le haut, plus je monte vers des pays riches. Donc pour vous montrer comment lire ce graphique, si je suis un faible PIB, pays à faible revenu, dans ma ration alimentaire moyenne, j'ai 15% de calories qui sont apportées par les lipides, 75% qui sont apportées par les glucides, 10% qui sont apportées par les protéines. Quand le pays s'enrichit, si j'arrive à un PIB élevé, j'ai maintenant 28% qui sont apportés par des lipides. Les lipides, c'est toutes les matières grasses. 60% qui sont apportés par des glucides et 12% qui sont apportés par les protéines. Et si on regarde un petit peu plus en détail la composition du régime alimentaire, au niveau des lipides, donc des matières grasses, on a une croissance très importante des lipides apportés par les produits animaux, une réduction des matières grasses apportées par les produits végétaux et une augmentation des lipides libres, en fait des matières grasses ajoutées dans nos aliments. Donc on va rajouter, si vous voulez, dans les aliments. Donc là, une structure importante qui change. De la même manière, au niveau des glucides, on a une réduction importante des glucides complexes. Alors les glucides complexes, ça va être tous les produits de base, céréaliers, le pain, la semoule, le riz, tous les éléments qui sont les éléments de base, on va dire, de la ration alimentaire. Et par contre, une très forte augmentation des sucres. Et dans les protéines, on a une évolution complète de la structure de notre alimentation en termes de protéines, avec au départ des protéines végétales essentiellement dans la ration. Et quand on est dans des pays à niveau développé élevé, on a une très forte dominante des protéines d'origine animale. Et donc on a une inversion là de la proportion protéines animales, protéines végétales dans l'évolution. Et donc, le développement économique va de pair avec une augmentation de la part des aliments transformés et ultra-transformés, augmentation de la part des aliments riches en lipides et en sucre, en graisse saturée, en sel, une réduction des aliments riches en fibres et en fruits et légumes, une augmentation des produits d'origine animale, avec ce passage des protéines végétales vers les protéines animales. Donc ça, c'est un mouvement de fond général. Je ne vais pas développer ici les déterminants économiques, puisqu'il y a des déterminants économiques quand même derrière tout ça. Je ne vais pas les développer parce que je m'aperçois que je parle lentement et je crois que je risque de déraper sur le timing de ma présentation. Donc j'avance, je ne décore pas plus cet élément. Si je finis sur la demande, au fond, si maintenant j'utilise tous ces éléments-là pour dire qu'est-ce qui sera d'ici 2050, au fond on anticipe une croissance de la demande mondiale de l'ordre de 40 à 50%, et qui sera plus forte sur les produits animaux, la viande, les produits laitiers, sur les produits transformés, incorporant des produits sucrants, des graisses, avec une très forte croissance dans les pays en développement. Je rentre dans le détail pour gagner du temps. Et donc, croissance de 40 à 50%. Est-ce que c'est beaucoup? C'est ça la question. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est inaccessible? À titre de comparaison, la production agricole mondiale a augmenté de 54% entre 2000 et 2021. Donc entre 2000 et 2021, on a fait un saut en termes de quantité produite considérable, de la même manière qu'on l'avait fait avant. Donc vous pourrez dire, mais finalement, il n'y a pas de souci, on a été capable de le faire. Sauf que, et c'est ça que je voudrais essayer d'argumenter, le problème aujourd'hui, il n'est plus simplement une question de quantité, mais une question de qualité et de comment on va le faire. Parce qu'aujourd'hui, si on reste sur les tendances passées, on risque d'être confronté à des réelles difficultés que je vais essayer d'expliciter. Et qu'au fond, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas tant la quantité à produire au niveau mondial pour faire face à ces enjeux, que comment on va le faire en évitant de faire exploser la planète. Autrement dit, quand je dis exploser la planète, c'est franchir toutes les limites planétaires en termes de climat, en termes de biodiversité, et sans faire exploser les inégalités. C'est donc ça notre sujet. Ce n'est pas simplement comment on va produire, quelle quantité produire, c'est comment on le fait pour être capable d'adresser ce sujet-là de manière à ne pas faire exploser ni la planète, ni les inégalités. Alors sur le climat, donc un petit focus climat pour essayer de préciser les choses. Le changement climatique va avoir des effets importants sur l'alimentation, sur l'agriculture, mais du coup en conséquence sur l'alimentation. Alors, à travers les impacts sur les températures, sur la pluviométrie, sur la fertilité des sols, sur les rendements, tout ça va jouer sur l'alimentation. En matière d'évolution des rendements, par exemple, on observe déjà une certaine stagnation des rendements. Prenez cet exemple-là, c'est dans l'Europe de l'Ouest, c'est l'évolution des rendements, c'est des données de la FAO, depuis 1960 jusqu'à 2020. Et les petits points, c'est les moyennes mondiales, par grand type de culture. Orange, c'est les céréales, orange, c'est les pommes de terre, rouge, c'est les céréales, et bleu, c'est des légumineuses. Et vous voyez qu'on a réussi à augmenter de manière considérable les rendements, on va dire dans la phase de développement de l'agriculture, de modernisation de l'agriculture, entre 1970 et 2000, donc très forte augmentation des rendements agricoles. Mais depuis les années 2000, on a une stagnation, on est un plateau. Et donc ça veut dire que, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution future des rendements, compte tenu des conditions climatiques, des températures, etc. Des incertitudes sur les innovations techniques, est-ce qu'on va être capable de générer des innovations qui permettent de poursuivre l'augmentation des rendements. Des marges de manœuvre existent dans les pays pauvres, dans les pays dans lesquels on est encore à des niveaux bas de productivité, mais ça va être de plus en plus difficile dans les pays en Europe, par exemple, dans les pays développés, d'aller beaucoup plus loin en termes de rendement. Et si on va beaucoup plus loin en termes de rendement, ça risque d'être au prix des conséquences qu'on veut éviter, qui sont les conséquences en particulier environnementales. Donc on a un souci là, qui est-ce qu'on va être capable de produire plus par hectare. Et au fond, il y a des éléments qui tendent à penser qu'on a... On va peut-être pouvoir augmenter un peu, mais pas tant que ça, finalement. En termes de terres cultivables, est-ce qu'on peut augmenter les terres cultivables? Est-ce qu'on peut augmenter les terres agricoles? Le changement climatique va affecter les terres agricoles. Et donc, il y a des régions du monde dans lesquelles des terres cultivables ne vont plus l'être. Et donc, on va perdre en surface cultivable dans certaines régions du monde, et en particulier en Afrique ou en Amérique latine, qui sont de nouveau les zones dans lesquelles, je disais tout à l'heure, la croissance mondiale va être la plus forte en termes de demande, en termes de population, et dans lesquelles on est déjà dans des zones, dans des conditions de production difficiles. A l'inverse, dans les pays du Nord, ex-URSS, Canada, USA, l'augmentation des températures va peut-être pouvoir permettre de libérer de nouvelles terres agricoles et renforcer peut-être les positions exportatrices de ces grandes régions du monde. Au total, le potentiel mondial en termes de terres agricoles, d'ici 2050, c'est plutôt une stabilité. On va en perdre d'un côté, on va en gagner un peu de l'autre, c'est plutôt une stabilité. Et donc, on ne va pas pouvoir répondre à la croissance en augmentant les terres agricoles. D'autant plus qu'on a deux phénomènes importants à prendre en compte. C'est que les terres agricoles sont aussi soumises à une concurrence avec d'autres usages. J'ai parlé d'urbanisation. L'urbanisation, il faut bien que les gens se mettent quelque part. Il faut bien qu'on habite quelque part. Et donc, souvent, l'urbanisation va de pair avec une réduction des terres agricoles. Et puis, on a une concurrence qui pourrait être problématique, qui est toute celle des biocarburants. Vous savez qu'on développe aussi de la biomasse pour fabriquer de l'éthanol, par exemple, donc qui sert dans le transport. Et ces terres agricoles dédiées à des biocarburants pourraient venir en concurrence avec la production alimentaire. Et donc là, on a un souci important qu'il faut prendre. Et puis l'extension des terres agricoles, elle est contrainte par d'autres enjeux environnementaux, en particulier la biodiversité, je vais y revenir dans quelques minutes. Je vais balayer vite une sorte de conséquences importantes du changement climatique sans les développer, mais évidemment la question des ressources en eau. avec baisse des ressources en eau dans nos, et donc évidemment des conflits d'usage qui vont se renforcer entre les différents utilisateurs de l'eau. On les voit déjà apparaître. Impact sur la qualité des produits. En fait, le réchauffement climatique pourrait réduire la teneur en protéines du blé. Et donc, du coup, réduire les qualités intrinsèques des blés, ce qui va supposer des innovations variétales, de la sélection variétale, etc. Et donc, des efforts importants en matière de recherche et développement. Augmenter la fréquence des pathogènes. Alors, je ne développe pas plus, mais les conditions de chaleur et d'humidité sont propices au développement de contaminations bactériennes sur les cultures, sur les aliments. Et donc, peut avoir des effets aussi importants en termes de sécurité. Augmentation de la fréquence des événements extrêmes. On les voit déjà, des inondations, des incendies, des crises de sécheresse. Donc des événements extrêmes qui vont être de plus en plus fréquents. Et avec une conséquence sur laquelle j'espère que je pourrai dire quelques mots à la fin, si je ne suis pas trop long, une conséquence potentielle sur l'augmentation du coût de l'alimentation. Puisqu'au fond, des chocs, des pertes de production, des chocs de prix, génèrent des crises économiques, des crises d'inflation, et donc avec des conséquences possibles en termes d'augmentation du coût de l'alimentation. Et donc on a un sujet important dans notre domaine alimentaire, et agricole et alimentaire, c'est un enjeu d'adaptation au changement climatique. Il faut qu'on développe des solutions, il faut qu'on développe des réponses qui permettent de répondre, de s'adapter à ce changement climatique. Mais il y a un autre élément qu'il faut avoir en compte dans notre tableau, c'est que l'alimentation elle-même contribue au changement climatique. L'alimentation elle-même a des impacts sur le changement climatique parce qu'elle contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est des données de l'ADEME, mais qui convergent avec pas mal d'études, qui sont les émissions de gaz à effet de serre d'un ménage moyen en France. Un ménage moyen, ses contributions au changement climatique sont liées pour 28% au logement, pour 25% au transport, pour 23% à son alimentation. Donc l'alimentation, c'est presque un quart des émissions de gaz à effet de serre du consommateur, du ménage moyen, de l'individu moyen, de la personne moyenne en France. C'est considérable. C'est un élément important. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on va arriver à atteindre d'ici 2050 des objectifs en termes de transition climatique sans se poser la question de l'impact climatique de notre propre alimentation. Et dans l'alimentation, d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre? Donc ça, c'est des données, là aussi, c'est récente, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'alimentation, pour différents domaines. Le côté vert, là, celui qui fait, à votre gauche, je crois, oui, à votre gauche, c'est les émissions de gaz à effet de serre induites par l'agriculture. En rouge, c'est les industries agroalimentaires. En bleu, c'est le commerce et la restauration hors domicile. En orange, c'est le transport. Et en bleu plus clair, là, c'est au niveau du consommateur, des ménages. Tout ce qui est associé, au fond, à l'alimentation à domicile. Et donc, on a une part importante qui est liée à l'agriculture. Pas seulement, parce qu'il y a aussi des industries alimentaires qui pèsent dedans, mais qui expliquent l'émission de gaz à effet de serre de notre système alimentaire. Pour décortiquer un petit peu plus les effets, là, j'ai repris un des travaux du Haut Conseil du Climat qui a été publié cette année, et qui décompose un peu les choses. 59% de l'émission de gaz à effet de serre sont liées à l'élevage. Et donc aux émissions associées à l'élevage, en particulier à l'élevage bovin, à travers les émissions de méthane et en particulier, et donc qui sont un des impacts importants au niveau mondial de l'agriculture en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième sont les cultures, les productions végétales, et dans les productions végétales, qui contribuent à 27% des émissions de gaz à effet de serre, le gros de l'impact est lié aux engrais, et donc à la production d'engrais, à la production des pesticides, à la production de tous ces produits qui réclament beaucoup d'énergie et qui contribuent à des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'ensemble des équipements à hauteur de 13%, les machines, le fuel utilisé, etc. Et c'est ce qu'on appelle les variations de stock de carbone, c'est ce qui sont les changements d'usage des sols. Au fond, quand vous passez d'une culture, quand vous supprimez une prairie permanente et la remplacez par une culture, qui elle va être pendant une période de l'année à découvert, vous émettez des émissions de gaz à effet de serre. Et donc les changements d'usage des sols sont aussi des éléments qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'agriculture, de cette manière, génère des émissions de gaz à effet de serre, mais, et donc c'est une partie du problème, mais il y a aussi une partie de la solution, parce que selon les manières dont vous produisez, vous pouvez plus ou moins stocker du carbone dans les sols. Et au fond, quand je parle de l'élevage ici sur mon schéma, là, je vois plutôt à l'élevage industriel, on va dire, pour faire simple. Mais un élevage qui va être sur des prairies permanentes, qui va être donc sur un... qui va être sur des prairies permanentes. Là, les prairies permanentes permettent de stocker du carbone dans les sols et donc vont permettre d'amoindrir les effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une dimension non seulement de type de production, mais de manière de produire qui devient essentielle. L'empreinte carbone des Français, c'est ça, donc une part importante des ménages français. Donc notre impact carbone moyen, c'est une grande partie la viande, les boissons, les fromages, et dans une moindre mesure, fruits et légumes, eau, trait et poissons. J'ai pas l'horaire, et donc je ne sais pas du tout où j'en suis. Donc j'ai sauté là-dessus. On arrive dans la discussion. Donc, j'arrive plus à dessiner. Et donc je reviens au niveau mondial. On est dans la poursuite des tendances au niveau mondial. Ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre en 2010 et en 2050. Si on poursuit les évolutions que j'ai annoncées tout à l'heure en termes d'évolution de demande alimentaire mondiale, on pourrait doubler nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et donc on a, voilà, quelque chose pour vous dire qu'au fond, si on reste sur nos tendances, on a clairement une difficulté majeure à faire face à tout ça. Biodiversité, je vais essayer d'aller plus vite. Moi, c'est quand je commence à parler, je... Voilà, donc je vais essayer. Alimentation et biodiversité, c'est un sujet important. On a beaucoup parlé du climat, on commence à parler un peu plus de biodiversité depuis quelques années, je crois que c'est un sujet majeur. Donc la biodiversité, c'est la biodiversité des espèces animales, des espèces végétales, présentes sur la planète, présentes dans le sol, présentes dans nos paysages. Et donc on a clairement, beaucoup de travaux, beaucoup d'études le montrent, clairement une dégradation de cette biodiversité dans les milieux naturels et dans les milieux exploités, y compris dans le sol, avec un effondrement, une très forte baisse de la population des espèces végétales ou animales dans toute une série de secteurs. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la baisse de la biodiversité, que je ne vais pas développer, mais il y a le changement climatique, il y a le développement des espèces invasives, il y a la surexploitation des espèces, la surpêche va réduire, par exemple, la biodiversité. Il y a les maladies qui pourraient, bactériennes par exemple, microbiennes, qui pourraient être augmentées par le changement climatique. Il y a deux facteurs sur lesquels je voudrais insister. Il y a la pollution chimique. On a clairement là des éléments qui démontrent, on a une grosse expertise scientifique sur le sujet au niveau du Nord-Est, qui montre bien l'impact des pesticides et des engrais de synthèse sur la biodiversité, et donc avec des effets effectivement de réduction. Et deuxième élément, c'est la dégradation et la perte des habitats. Quand je parle des habitats, c'est les habitats des espèces végétales et animales. Dégradation des habitats qui sont induites par l'évolution des paysages agricoles, la spécialisation agricole, avec la monoculture, avec la disparition des structures paysagères, les haies, les bosquets, les mares, qui sont liées à la spécialisation des paysages agricoles, et puis avec les changements d'usage des sols, avec la déforestation, l'urbanisation, et quand on abandonne une prairie permanente pour la transformer en culture, là, on a des pertes de biodiversité. Donc ça, c'est des éléments importants parce qu'au fond, il renvoie bien à notre mode de production et à notre mode... Non, c'est pas notre mode de production, mais aussi à notre mode de consommation. Et pourquoi? Parce qu'au fond, donc l'alimentation a un impact sur la biodiversité à travers la pression qu'elle a sur les écosystèmes, sachant encore une fois qu'il y a des pratiques agricoles qui peuvent améliorer cette biodiversité, mais aussi, par exemple, à travers la déforestation qui va être associée aux produits importés pour ce qui nous concerne. Des produits importés pour l'alimentation humaine, quand on importe de la viande bovine ou de la volaille produite dans le Brésil, au Brésil, ou des produits tropicaux et qui conduisent à déforester, on a un impact sur la biodiversité. Quand on importe de l'alimentation animale, du soja, pour alimenter des animaux en Europe, on a un impact sur la biodiversité. Et donc en matière de biodiversité, les pratiques de production et nos modes de consommation, et là l'exemple que je prends c'est l'importation, ont des effets sur la biodiversité. En matière de santé, j'essaie d'aller là aussi un peu plus vite, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on a, alors les estimations varient, en sous-nutrition, en insécurité alimentaire, on a de l'ordre de 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées. Et 2 milliards de personnes qui souffrent de carences en fer, en vitamines, etc. On a une tendance de long terme qui a été plutôt une amélioration, une baisse de l'insécurité alimentaire, mais depuis 2018, ça remonte. Ça, la courbe, les courbes ici sont les courbes au niveau mondial de la prévalence, de la proportion de personnes qui sont en sous-nutrition. Regardez juste la courbe orange, c'est le pourcentage. On était à 12% de la population mondiale en sous-nutrition en 2005. On était descendu à 7% en 2015. On remonte depuis 2018. Et on remonte en particulier ces dernières années à cause de Covid, à cause de l'inflation, et donc à cause des crises qui ont existé ces dernières années. Et toute la question, c'est les crises à venir, elles risquent d'amplifier, en tout cas, de maintenir un haut niveau. Et donc, on a une sous-alimentation mondiale qui reste à des niveaux très élevés, en particulier avec des poches importantes de pauvreté dans le monde, mais qui vont être probablement affectées par les chocs climatiques, les chocs énergétiques, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Et l'autre dimension sur laquelle je veux insister, c'est la question de la surnutrition. Et la surnutrition, c'est la question qui va renvoyer au surpoids, à l'obésité, et donc à toutes les pathologies associées, au fond, à une alimentation excédentaire ou déséquilibrée. Le diabète de type 2, sa prévalence devrait doubler d'ici 2050. Donc la proportion de personnes sur la planète souffrant de diabète de type 2 devrait doubler d'ici 2050, si on maintient les mêmes tendances. Et donc, et deux tiers de cette prévalence du diabète se retrouvera dans les pays en développement. L'augmentation du surpoids et de l'obésité, si la courbe ne s'inverse pas, la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d'ici 2035. À l'heure actuelle, il y a 2,6 milliards de personnes qui sont déjà dans cette situation à travers le monde. Et juste un petit graphique pour vous montrer, là c'est l'évolution du taux d'obésité chez les enfants à gauche et chez les adultes à droite, dans différentes régions du monde. Et regardez juste la courbe du haut là, en gris chez les enfants, c'est dans les pays développés, donc c'est les pays riches. On atteint aujourd'hui, en moyenne, 15% d'enfants en situation d'obésité dans les pays riches. Alors, on est un petit peu en dessous dans les pays moins développés, mais vous voyez avec la courbe verte, par exemple, c'est les pays intermédiaires dans lesquels ça monte à toute vitesse. Et prenez des pays comme le Mexique, qui connaissent une croissance de l'obésité, mais à toute allure, au cours des 20 dernières années. À droite, chez les adultes, avec les mêmes phénomènes. En France, on a une évolution, alors on est un petit peu en dessous de la moyenne mondiale, on est plutôt un peu mieux, mais malgré tout, avec une croissance qui est significative, le surpoids est passé de 24% à 38% chez les femmes entre 1996 et 2018. Il est passé de 40 à 50% chez les hommes. Et l'obésité a presque doublé, à la fois chez les femmes, et chez, a plus que doublé chez les femmes, et presque doublé chez les hommes, au cours de cette période-là. Et le point important, ici, c'est le taux d'obésité chez les hommes en bleu et chez les femmes en bleu clair, selon le niveau de revenu. Et vous voyez qu'on est sur les revenus faibles à gauche, les revenus élevés à droite, et vous avez une croissance de la prévalence de l'obésité de plus en plus forte quand on va vers les revenus les plus faibles. Donc on a un vrai sujet là de nouveau d'inégalité et d'inégalité sociale de santé associée à tout ça. Perte et gaspillage, c'est quoi? Les pertes et le gaspillage, au fond, pourquoi c'est un problème? Parce que ce sont des produits qui sont fabriqués, mais non consommés, et donc perdus. Ils surviennent tout au long des chaînes alimentaires, depuis la production jusqu'à la consommation. Les estimations sont un peu compliquées, mais on estime entre 20 et 30% en moyenne mondiale les pertes et gaspillages. Et elles représentent au moins 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que réduire les pertes et gaspillages, ce serait aussi un moyen de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors je l'ai dit, elles se réalisent, elles existent tout au long de la chaîne, depuis la production, en passant par le stockage, la transformation, la distribution et la consommation. Là, c'est les estimations de la FAO en termes de pertes et gaspillages dans différentes parties du monde. À gauche, l'Amérique du Nord, 42%. En Europe, 22%. En Asie du Sud-Est ou en Afrique subsaharienne, on est autour de 17-20%. Mais le point sur lequel je vais insister, c'est où est-ce qu'elles existent, ces pertes et gaspillages? Quand on est dans les pays pauvres, les pertes et gaspillages, les pertes, existent surtout au niveau de la production. Et elles viennent du fait qu'on n'a pas de bonne capacité de stockage, qu'on a des pertes à la récolte, que les produits se conservent mal parce que les silos sont mal adaptés, les moyens de transport sont mal adaptés, etc. Donc on a surtout des pertes qui se jouent au niveau des équipements en production, en stockage et dans les circuits. Quand on est dans les pays riches, les pertes et gaspillages sont surtout au niveau de la consommation et dans les maillons finaux de la chaîne. Et donc on a quand même une opposition forte de ce point de vue-là. Et donc on a un sujet important là, qui est quand même celui de la consommation et du gaspillage, et, alors, qui peut se faire à domicile, dans la restauration collective, dans toute une série d'enceintes, hein, de structures, mais qui sont un sujet. Je ne développe pas plus pour venir à mon dernier point, qui est celui, au fond, ayant dressé ce paysage un peu général, au fond, où sont les points de tension et finalement, qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux voies d'action vers lesquelles il faut pointer de tendre pour essayer de tendre vers cet objectif que j'avais dit tout au début de sécurité alimentaire mondiale. Si les tendances passées se prolongent, en termes de production, en termes de consommation, on va avoir un écart important à combler entre les calories produites et les calories nécessaires. À gauche, c'est les calories produites par l'agriculture mondiale en 2010, donc la petite barre grise là, d'accord ? À droite, c'est les calories qui seraient nécessaires à produire en 2050 si on maintenait les mêmes tendances d'évolution, de production et de consommation. Et donc on a clairement ce qu'on appelle en anglais un food gap, un écart, entre d'un côté les calories qui vont être nécessaires et les calories qu'on produit aujourd'hui de cette manière, compte tenu de nos moyens de production et de consommation. Et donc la question c'est ça, comment on traite cette question-là? Sachant que tout ce que j'ai dit avant nous amène des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on y réponde en limitant l'extension des surfaces agricoles, en s'adaptant et en répondant aux changements induits par le changement climatique, et en développant des solutions qui réduisent des impacts environnementaux et de santé, des systèmes agricoles et alimentaires. C'est ça notre équation qu'on a à résoudre pour les années à venir et d'ici 2050. Et au fond aussi, si je fais un peu le point sur tous les travaux, les études qui ressortent, enfin qui se développent depuis quelques années, au fond ce que je retiens, c'est ce premier résultat, c'est qu'au fond pour combler cet écart, il va falloir jouer sur plein de leviers d'action, et en particulier il va falloir jouer à la fois sur la production et la consommation. Il va d'un côté falloir au niveau mondial augmenter la production alimentaire tout en freinant l'accroissement des terres agricoles et d'autre part freiner la croissance de la demande alimentaire et des autres usages des terres agricoles, puisqu'au fond si on fait plein de biocarburants, on va quand même avoir un petit problème d'alimentation. Donc freiner la demande alimentaire et des autres usages du prix. Et on n'y arrivera pas si on ne joue pas sur ces deux grandes catégories. Ça veut dire quoi concrètement? Freiner la croissance de la demande alimentaire mondiale et des autres usages des produits agricoles, c'est une évolution de nos régimes alimentaires. C'est une évolution de nos régimes alimentaires vers plus d'équilibre nutritionnel, vers plus de fruits et légumes, vers une meilleure qualité nutritionnelle, vers une meilleure qualité d'aliments transformés, un rééquilibrage des protéines animales et des protéines végétales. Je vous rappelle juste la petite courbe du début, au fond, on a inversé à travers notre évolution le rapport protéines animales-protéines végétales. Peut-être juste pour être clair, ça ne veut pas dire ne plus manger de viande. Hein. Donc en tout cas, ce n'est pas ça qui est nécessaire, c'est des choix individuels, ça. Mais c'est pas le point. Le point, c'est plutôt un rééquilibrage. Et donc, un rééquilibrage de régime vers quand même une part végétale plus importante, une augmentation des protéines végétales, par exemple les légumineuses, limiter la concurrence avec les autres usages des terres, réduire le gaspillage. Et côté de la production, il faut augmenter la production dans les pays en développement. Donc il y a clairement un rattrapage en termes de volume de production qu'il faut opérer dans les produits en développement, autant que possible sans dégradation environnementale. Maintenir, en tout cas pas trop réduire notre capacité de production, et c'est là la grosse difficulté qu'on a, je pense, dans les pays développés. Et c'est ça le point de tension, un des gros points de tension aujourd'hui, c'est la question de l'agriculture, on pourra en revenir dans la discussion. C'est peut-être capable d'arriver à répondre à nos objectifs environnementaux sans trop réduire nos capacités de production. C'est tous les débats qu'il y a eu en début d'année à travers les protestations agricoles qui est derrière ce sujet-là. Des pratiques agricoles plus favorables à la biodiversité, c'est réduire les pesticides en conventionnel, c'est l'agroécologie, c'est le bio, c'est donc toute une série de solutions qui vont dans ce sens-là. C'est limiter la déforestation et c'est réduire les pertes dans les filières, en particulier dans les pays en développement. Des régimes alimentaires plus sains et plus durables. Ici, c'est. Je m'appuie sur les travaux là aussi qui ont été faits à l'INRAE. J'essaie de voir comment tout ça pouvait s'équilibrer à l'horizon de 2050. Là, c'est l'évolution des besoins caloriques, des disponibilités caloriques dans différents pays du monde de 2010 à 2050 si on poursuit notre évolution, les tendances passées. Vous voyez qu'on est. Alors, le bleu pointillé, je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'Europe. Donc, on est plutôt en légère stabilité. Par contre, dans plein de pays du monde, on est en croissance. Et donc, si on poursuit l'évolution des régimes alimentaires tels que on accroît de manière, dans tous les pays du monde, les besoins en termes de disponibilité calorique, ce que montrent les travaux, c'est qu'on n'y arrivera pas. Ou alors il faudrait des croissances, des rendements tellement importantes qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, tellement importantes qu'elles pourraient par ailleurs avoir des effets dommageables en matière de climat ou en matière de biodiversité. Et donc, ce que montrent les travaux, c'est qu'il faut qu'on arrive à aller vers quelque chose qui est une croissance des calories consommées et donc des régimes alimentaires dans les pays pauvres, donc dans les pays qui sont sur les courbes du bas, et par contre une réduction des consommations dans les pays qui sont sur les niveaux les plus. Et donc on est sur ce schéma-là aujourd'hui, qu'il y ait d'évolution nécessaire des régimes alimentaires. En France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là vous avez trois barres, 2010, au milieu, 2050, si on poursuit nos tendances actuelles, et ce vers quoi il faudrait essayer de tendre à l'horizon de 2050, qui est la barre de droite. Donc vous voyez qu'on a à la fois une baisse des calories totales consommées, et dans les calories totales consommées, une croissance des fruits et légumes, une croissance des produits céréaliers et une baisse de la consommation de viande. Et finalement, en Afrique de l'Est, dans les pays d'Afrique, on a quelque chose qui serait de la jeune chance. Eux, il faut qu'ils continuent à croître dans leur consommation alimentaire. Il faut qu'ils arrivent à manger plus de viande. Il faut qu'ils arrivent aussi à manger plus de fruits et légumes. Et donc, on a une évolution de cycle. Et ce que j'ai comme élément tout à l'heure, c'est qu'au fond, il faut qu'on arrive à jouer sur tous ces leviers d'action. Ici, c'est nos impacts climatiques, les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Entre 2050, le scénario tendanciel, ce vers quoi on va, et donc si on ne change rien, c'est ça, ça va être ça nos émissions de gaz à effet de serre en 2050. Et la barre à droite, c'est l'objectif vers lequel il faut tendre pour arriver à un niveau d'émission qui soit compatible avec les limites planétaires en matière climatique. Et donc il faut qu'on réduise nos émissions. Il faut jouer sur tous les leviers. Les modélisations, les simulations permettent d'estimer un peu combien on peut gagner à travers ces différents leviers. Ici, c'est l'évolution de la demande. Donc l'évolution de nos régimes alimentaires peut permettre de réduire d'une certaine fraction nos émissions de gaz à effet de serre. L'augmentation de la production sans augmentation de surface, en partie dans les zones dans lesquelles il y a encore des marges de manœuvre, peut contribuer à réduire ces émissions de gaz à effet de serre. La réduction des émissions de lait à l'agriculture et aux filières, les changements de pratiques agricoles, l'évolution des modes d'élevage, je ne rentre pas dans le détail, mais nos pratiques agricoles et alimentaires en production peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la restauration des surfaces naturelles peuvent permettre aussi, non seulement d'être bénéfiques pour la biodiversité, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut qu'on joue sur tout ça. Il faut qu'on joue sur tout ça pour être en mesure de régler notre problème. Et c'est des objectifs, c'est ceux qu'il faut, vers quoi il faut qu'on arrive à tendre. Et comment on va le faire? Comment on va le faire? Où sont les points critiques là-dessus? Et pour moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a un sujet majeur qui est celui de la dimension économique, qui est un driver important, pardon, c'est moi, un déterminant important des évolutions derrière, et qui est à la fois un point de blocage d'un centre d'évolution qui complique un peu la donne quand même. Deux mots pour être très rapide, je refais juste une minute, un petit retour en arrière. De ce point de vue-là, au fond, l'évolution des systèmes alimentaires qu'on a connus au cours des 40-50 dernières années, elle a été marquée par des évolutions très fortes sur un ensemble de plans. Et une évolution que je voudrais vous montrer, c'est l'évolution des prix agricoles depuis 1960, au niveau mondial. Donc ça, c'est un indice de prix, un indice des prix agricoles au niveau mondial, depuis 1960. Alors il y a des fluctuations, hein, c'est la courbe rouge, des fluctuations qui sont liées à des chocs, à des sécheresses, à plein d'éléments. Mais j'ai mis la droite verte pour insister sur un point, c'est qu'on est depuis 40-50 ans sur une tendance mondiale à la baisse des prix agricoles. Cette baisse des prix agricoles, en fait, elle s'explique par des mécanismes économiques importants qui ont lieu depuis 40-50 ans, qui est l'intensification de la production agricole qui a permis des gains de productivité considérables grâce à la sélection variétale, un peu grâce à l'INRAE. Voilà, avec... Voilà. Mais qui a permis de résoudre son problème quand même, en termes de quantité, qui était important au lendemain de la guerre. Les intrants chimiques, des gains de productivité importants. Tout ça a été permis aussi par la mondialisation, en fait, le marché mondial agricole, en fait, la mondialisation des matières premières agricoles, la déconnexion des zones de production et de consommation. J'insiste sur ce point-là parce que je pense que vous allez revenir dans les discussions. Au fond, quand on regarde la France, on a eu une spécialisation des territoires. Vous avez la Bretagne et son élevage intensif. Vous avez le bassin parisien avec blé, betterave, maïs. Vous avez le sud-ouest, certaines zones du sud-ouest qui sont plutôt de la production végétale intensive. Vous l'avez le Cantal et les zones de montagne ou d'intermédiaire qui ont d'élevage extensif. Et donc, sur ce processus-là, en fait, c'est traduit par une spécialisation des territoires qui, pour partie, pose problème aujourd'hui. Et au fond, je pense que quand vous allez discuter des plans alimentaires territoriaux, quand vous allez discuter des dynamiques territoriales, c'est un des sujets sous-jacents qui est en jeu. Et pourquoi c'est un fait sujet? Parce que du coup, à travers ça, c'est opéré une déconnexion entre les zones de production et les zones de consommation. À travers l'allongement des chaînes, la distanciation entre l'endroit où on produit et l'endroit où on consomme, et qui du coup, soulève des interrogations, des questions en tout cas importantes aujourd'hui, et qui a été permise par la baisse des coûts de transport. C'est fondamental, la baisse des coûts de transport qui a rendu ces produits. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais juste donc ce point-là de la baisse des prix agricoles, qui est aussi un élément clé des discussions, un élément clé des débats. L'agriculture française, européenne, mondiale, est très hétérogène. Et en France, on a eu des conflits, il y en a tout le temps d'ailleurs, des protestations, y compris cette année, qui révèlent aussi cette question du devenir de l'agriculture, avec une fragilisation d'une partie de l'agriculture. Et dans ce contexte de prix agricole décroissante, qui soulève vraiment la question des difficultés à conduire la transition climatique, la transition environnementale, dès lors qu'elle suppose des investissements, dès lors qu'elle suppose des coûts de production plus élevés, dès lors qu'elle suppose des charges plus importantes. Et donc là, on a un sujet, je pense, qui va être, me semble-t-il, un sujet de discussion pendant vos journées. Et de l'autre côté des consommateurs, cette baisse des prix agricoles, au fond, elle est positive. Elle est positive, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, si je regarde les évolutions du côté des consommateurs en matière d'alimentation, les courbes ici que je montre, c'est l'évolution de la part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages. En 1960, en moyenne, on dépensait plus de 30% de notre revenu à l'alimentation. En 2020, on dépense la moitié, c'est-à-dire que 15% de notre budget alimentaire est consacré à l'alimentation. Alors ça, c'est un côté très positif, de cette manière. C'est un côté positif parce que ça nous a permis de partir en vacances, ça nous a permis de développer aussi d'autres activités. Ça nous a permis aussi de nous loger, peut-être, enfin voilà. Donc ça a une dimension positive. Ça s'est accompagné aussi, pourquoi ça a baissé? Parce qu'au fond, on a augmenté la part des produits transformés qu'on consomme. Hein, la part des produits transformés aujourd'hui est ultra transformée, on pourrait dire, en tout cas prêt à consommer, a augmenté considérablement au cours des 40 dernières années. Et au fond, le prix, si je rapporte au prix du produit, ça me coûte moins cher d'acheter un produit transformé que de faire moi-même le produit à la maison. Et donc on a, de cette manière, une baisse qui a joué cet aspect-là, mais qui a aussi répondu à des attentes des consommateurs. L'urbanisation, l'entrée des femmes sur le marché du travail, la distance entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille, tout ça, ça a quoi comme conséquence? C'est la réduction du temps disponible pour faire les courses, pour faire à manger, Et donc cette réduction du temps, eh ben, on y a répondu par une croissance de la consommation de produits transformés. Et d'une certaine manière, c'était raisonnable, c'était rationnel, c'était logique. Et donc on a des phénomènes, vous voyez, sociétaux très larges qui impactent nos dynamiques alimentaires. J'ai insisté sur l'urbanisation, mais l'urbanisme, les lieux d'habitation, la façon dont notre organisation sociale se change, a des effets importants sur tout ça. Et la question pour moi, la question centrale, c'est est-ce que ça peut durer ? Au fond, est-ce que la baisse continue de nos dépenses alimentaires, en part du budget et de revenus, est-ce qu'elle peut continuer ? Alors on va dire non. Sauf que, on avait tendance à penser que les prix d'alimentation pourraient augmenter, mais la transition climatique, la transition énergétique, elle risque aussi d'augmenter les prix du logement, de la mobilité, et aussi des autres postes de dépenses des ménages. Et donc on a une problématique d'arbitrage qui va devenir de plus en plus compliquée, si on fait l'hypothèse, encore une fois, que tout ça va plutôt, ce qui est plutôt mon hypothèse, plutôt pousser à la hausse les prix agricoles et les prix alimentaires. À la fois en effet direct du changement climatique, mais aussi l'impact des réponses à donner peuvent, de cette manière, contribuer à augmenter les prix et les coûts de production. Alors on peut chercher des solutions pour essayer d'amoindrir ces croissances de prix, on pourra en discuter, mais dans cette hypothèse-là d'effet sur les dépenses alimentaires, on retrouve de nouveau un sujet majeur, qui est celui des inégalités. Et donc on a au cœur de tous nos débats, au fond, qu'on les prenne sur l'alimentation, mais c'est vrai sur d'autres sujets, on a au cœur de nos débats ce sujet qui est des transitions et des évolutions à opérer, et des inégalités qui sont importantes aujourd'hui, mais qui pourraient être renforcées aussi dans cette dimension. Et donc je finis avec cette conclusion. Au fond, on, je ne veux pas être trop pessimiste, donc j'ai essayé de montrer quand même qu'il y a des points critiques, qu'il y a des tensions, que ça ne va pas être facile, mais il y a des leviers. Voilà. Donc il y a des leviers d'action et les travaux montrent qu'on peut y arriver, sous réserve, je ne le répète pas, mais j'essaie de développer, à la fois d'une évolution des comportements de consommation, des manières de produire, et avec ce souci important des inégalités. Et tout ça, c'est un enjeu de nouveau des questions multiples, parce que il faut une cohérence de l'ensemble des politiques publiques pour arriver à répondre à tout ça. Politique publique au niveau global, qui renvoie à la question des accords internationaux, je ne développe pas, à l'aide à l'adaptation climatique des pays pauvres, donc il y a toute une série de débats, et pas forcément toujours des mesures, mais en tout cas des débats dans les enceintes internationales sur ces thématiques-là, et donc c'est des niveaux importants qu'il faut pouvoir traiter. Sur la question européenne, il y a la politique agricole, il y a commune qui va être renégociée dans les toutes prochaines années, qui va être une question majeure sur l'évolution de l'agriculture européenne et de l'alimentation européenne derrière tout ça. Les questions nationales, les politiques nationales, de réglementation, de soutien à la transition climatique, etc. Et puis les politiques locales. On m'a dit, voilà, c'est Julien tout à l'heure qui a dit qu'on irait du global au local. Et au fond, les politiques locales, au fond, elles s'inscrivent aussi dans tout ça. Et au fond, ce que je voulais essayer de dire pour finir, c'est qu'au fond, ces enjeux-là, ils ne se traitent pas uniquement dans les enceintes internationales. Ils se jouent à tous les niveaux. De la même manière qu'il faudra jouer sur tous les leviers d'action, il se joue sur tous les niveaux, et le niveau local en est un. À travers les dynamiques territoriales, vous allez parler des plans alimentaires territoriaux, l'action des collectivités, l'action des structures associatives qui jouent un rôle, qui doivent participer de cette dynamique globale, avec des points qui me semblent importants, parce que, je finis juste là, en particulier la question de l'éducation. Alors, au fond, pourquoi je vais manger plus de frites et moins de brocolis? c'est parce que je préfère les frites au brocoli. Et donc on a un problème alimentaire ici, c'est que on a la question des préférences. Et au fond, un des éléments de notre histoire, c'est au fond comment les préférences, elles vont changer au cours du temps. Elles vont évoluer. Et un des éléments dont on sait qu'il a un impact fort, c'est l'enfance. C'est la formation, c'est l'éducation, c'est l'exposition aux fruits et légumes, aux produits sains et durables dans l'enfance. Ce sont des éléments importants. Et donc, je finis juste là, la question de l'éducation, de l'exposition à travers la restauration scolaire, la restauration collective, à travers l'environnement alimentaire des individus, tout ça sont des éléments clés qui vont participer ou qui doivent participer de cette dynamique globale. Et merci pour votre attention et toutes mes excuses pour avoir été un peu.
Je vous propose qu'on fasse maintenant exactement ce qu'on a fait l'an passé à Evian et que vous avez apprécié. On prend 3 minutes, sans bruit, pour un peu digérer ce qui nous a été dit, éventuellement noter des questions, puisque après ce temps, les micros vont circuler pour que vous puissiez donc poser vos questions à notre intervenant. Un peu de calme.